Donc nous continuons notre enseignement autour de ce thème « Qu'est-ce que tu fais pour la vie éternelle ?» puisque de fait Dieu ne nous a pas mis dans l'existence simplement pour quelques années sur cette terre, mais il nous a créés pour la vie éternelle. Et si la fois dernière nous avions réfléchi sur le jugement particulier et l'expérience, l'état du purgatoire, aujourd'hui, nous allons parler du paradis et nous allons parler de l'enfer. Et le titre de ce soir était « Invité au paradis au risque de l'enfer ». Donc je vous parlerai dans un premier temps, à partir notamment de l'écriture, sur ce que l'on peut trouver sur ces notions de paradis et d'enfer. Et dans un deuxième temps, le père de Mello donnera un éclairage théologique et spirituel sur ces réalités. Alors, le paradis, ça vient toucher dans l'écriture un appel qui est adressé à tous. On peut se souvenir c'est une référence qu'il est, j'allais dire, presque bon de connaître par cœur, dans la première lettre à Timothée, au chapitre 2, le verset 4, donc 1 Timothée 2, 4, « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il y a un appel, il y a un salut qui est proposé à tous. Dans le livre de l'Apocalypse aussi, la vision que Jean a au chapitre 7, les versets 9 à 17, il va voir, dit-il, « Voici qu'apparut à mes yeux une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toute nation, race, peuple et langue, debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, de palmes à la main. » Et on interroge ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils, d'où viennent-ils? Ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, le servant jour et nuit dans son temple. Et celui qui siège sur le trône étendra sur eux sa tente. Jamais plus ils ne souffriront de la faim ni de la soif. Jamais plus ils ne seront accablés ni par le soleil, ni par aucun vent brûlant. Car l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. » Donc, on voit un appel adressé à tous, et dans la vision qu'a Saint Jean, il y a des élus de toute nation, race, peuple ou langue. Ce n'est pas limité à une race, ce n'est pas limité à une nation, ce n'est pas limité à une langue, ce n'est pas limité à un peuple. Et l'on voit que, je dirais, ce qui est perçu ici, c'est qu'on est devant le trône de Dieu, il étend sur eux sa tente. Donc il y a une familiarité avec Dieu. On annonce également que les affres de la faim et de la soif sont écartées. Les affres des conditions climatiques, le soleil, ni aucun vent brûlant, ne peuvent plus les toucher. C'est un lieu de présence où on côtoie l'agneau, c'est-à-dire le Christ, et il les conduit, il est leur pasteur, il les conduit aux sources des eaux de la vie. On a déjà cette idée, en prenant cette image du pasteur, on a aussi l'image de quelque chose qui bouge. Voilà, on conduit les troupeaux dans les pâturages, et selon les saisons, ce sont des pâturages différents. Et puis, il y a une dimension de consolation. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Alors, quand on se penche encore dans l'Écriture, on va avoir définitions. La vie éternelle, c'est nous dit Saint Jean au chapitre 17, le verset 3, c'est qu'ils te connaissent. « Toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. En nous souvenant que le verbe connaître dans l'Écriture, c'est pas simplement à la manière grecque avoir une intelligence de la chose, avoir eu vent de la chose ou savoir comment elle fonctionne. Le terme connaître dans la pensée des Sémites, dans la pensée du monde juif, c'est quelque chose qui va plus loin. Il y a une expérimentation, on va goûter. Pour prendre un exemple stupide, si pour le grec, dire connaître l'éclair au chocolat, il lui suffit d'avoir la recette ou une photo, ça n'est pas suffisant pour le sémite, pour l'hébreu, pour le juif. Connaître l'éclair au chocolat, il faudra qu'il le mange. Il faudra que ça participe à sa propre vie. Donc connaître Dieu, c'est il y a une intimité, il y a une intimité qui vient nourrir notre propre vie. Dans la première épître de Saint Jean, on a encore cette précision que la réalité du paradis même nous est déjà partagée aux baptisés, de façon voilée, mais déjà partagée. Je lis première lettre de Saint Jean, chapitre 3, verset 2. « Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. » Nous savons que lors de cette manifestation, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se rend pur comme celui-là est pur. Donc il y a deux éléments, à la fois cette filiation, nous sommes enfants de Dieu, et nous le sommes déjà par notre baptême, mais la plénitude n'a pas encore été manifestée. Pourtant on y goûte déjà. Et l'affirmation qui arrive ensuite, nous serons semblables à Dieu. Mais c'est quelque chose d'extrêmement fort dont il faut se rendre compte. Pour prendre possession de ce que signifie l'espérance chrétienne, c'est d'être divinisé, c'est d'être rendu participant de la vie divine. Et comment cela se pourra-t-il ? Parce que nous le verrons tel qu'il est. Il y a un élément transformant de la vision de Dieu. Saint Paul développera aussi cette idée de la connaissance et de ce sommet de la connaissance. Dans la première aux Corinthiens, au chapitre 13, au verset 12, il dit ceci. « Car nous voyons à présent dans un miroir, nous voyons en énigme, mais alors ce sera face à face. À présent je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. » Je connaîtrai Dieu comme lui-même me connaît. Ou encore dans l'Apocalypse, ils verront sa face et son nom sera sur leur front. Et il y a quelque chose sur lequel on va revenir, mais qu'on voit déjà poindre, le fait de la possibilité de voir Dieu et que ce soit transformant, et donc qu'on va passer une étape. Qu'est-ce que je veux dire par là, passer une étape, c'est que normalement, la nature humaine, la nature créée, face à la nature divine, on pourrait dire, mais elle devrait être consumée comme le papier par le feu. Et une telle intensité qu'elle ne devrait pas pouvoir tenir. Mais on a déjà cette image dans l'Ancien Testament du buisson ardent, la flamme présente dans le buisson, qui brûle, mais qui ne se consume pas, qui n'est pas détruit. Eh bien, il y a quelque chose de ça qui s'accomplira. Je voudrais citer maintenant une définition que Benoît XII donnait dans la Constitution Benedictus Deus en 1334 autour du paradis et autour de l'accès au paradis. Il disait ceci. De notre autorité apostolique, nous définissons que, d'après la disposition générale de Dieu, les âmes de tous les saints et de tous les autres fidèles, morts après avoir reçu le saint baptême du Christ, en qui il n'y a rien eu à purifier lorsqu'ils sont morts, ou encore s'il y a eu, ou qu'il y a quelque chose à purifier après cela, lorsqu'après leur mort elles auront achevé de le faire, avant même la résurrection de leur corps et le jugement général, et cela depuis l'ascension du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ au ciel, ont été, sont et seront au ciel, au royaume des cieux et au paradis céleste. Ils le seront avec le Christ, admis dans la société des saints anges. Je voudrais reprendre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. Première chose que je voudrais relever, c'est après avoir reçu le saint baptême du Christ. Rappelez-vous aussi que le baptême, c'est être plongé dans la mort et la résurrection de Jésus. Et être plongé dans la mort et la résurrection de Jésus, ça se fait de façon ordinaire à travers le sacrement du baptême. Mais il y a aussi des baptêmes qui sont non sacramentels. Vous avez peut-être entendu parler du baptême du sang et du baptême de désir. Et dans tous les cas, il faut être plongé dans la mort et la résurrection du Christ. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre porte. L'accès au paradis donc peut se produire dès après notre mort. On n'attend pas le jugement dernier. Et ça, depuis l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. Les portes du ciel, les portes du paradis sont ouvertes à l'être humain. C'est un passage qui est définitif. Elles ont été, elles sont, elles seront au ciel. Et cet état est une société, c'est une relation, c'est une interaction avec le Christ, avec les saints anges et avec les autres bienheureux. Et puis, on nous précise encore ceci, un peu plus loin, Benoît XII disait, « Depuis la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, ces âmes bienheureuses ont vu et voient l'essence divine. » Elles voient l'essence divine d'une vision intuitive et même face à face, sans la médiation d'aucune créature. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? L'essence divine, on pourrait dire, mais c'était ce qu'on pensait justement, qui était au-delà de nous, complètement au-delà de nous, parce que justement, c'est l'être même de Dieu. Comment est-ce que je peux m'en approcher ? Comment est-ce que je peux le voir ? Et c'est bien pourtant ce qui nous est dit. Nous verrons l'essence divine, nous verrons Dieu tel qu'il est, et d'une vision intuitive. Intuitive, vous voyez, ce n'est pas simplement quelque chose qui va rester à l'extérieur de moi. Parfois, on me fait une magnifique démonstration de mathématiques. On m'a écrit sur le tableau tout le raisonnement qu'il faut. Oui, sauf que je ne l'ai pas vraiment intégré. Je peux recopier le truc et je peux dire, ah oui, la démonstration, c'est ça. Mais je ne l'ai pas encore intuitivement, je ne suis pas encore capable, je ne me la suis pas appropriée. Une vision intuitive, c'est-à-dire c'est de l'intérieur qu'il y a une compréhension qui nous est donnée. Face à face, là encore, ce n'est pas simplement je l'observe de côté, je le vois, non, je le vois face à face. Et sans la médiation d'aucune créature. Je n'ai pas besoin d'une autre créature qui serait interprète. C'est Dieu lui-même qui me donne justement d'entrer dans cette communication, dans cette communion. Cette vie, du coup, apparaît comme une communion de vie et d'amour. Cette vie parfaite, c'est une vie avec la très sainte Trinité, avec la Vierge Marie, les anges et tous les bienheureux. C'est ça qu'on appelle le ciel. Le ciel, c'est aussi le lieu où s'accomplit l'homme. C'est la fin ultime, la réalisation des aspirations les plus profondes de l'homme, un état de bonheur suprême et définitif. Je voudrais revenir, à partir de l'Écriture, sur quelques affirmations. Vivre au ciel, c'est être avec le Christ. Vous vous souvenez peut-être de Jean 14, au verset 3, « Quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, à nouveau je viendrai, je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. » Le Christ qui annonçait qu'il allait périr sur la croix et qu'il ressusciterait, dit ne soyez pas bouleversés, il y a de nombreuses maisons dans la demeure de mon Père, il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon Père, j'irai vous préparer une place et là où je suis, vous y serez aussi. » Saint Paul, dans l'Épître aux Philippiens, revient encore là-dessus. Il a bien compris cela. Il dit ceci, c'est au chapitre 1 de l'Épître aux Philippiens, le verset 23. « Je me sens pris dans cette alternative. D'une part, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui serait de beaucoup bien préférable. Mais de l'autre, demeurer dans la chair est plus urgent pour votre bien. » Dans la première aux Thessaloniciens, au chapitre 4, au verset 17, il dit aussi, ainsi, lorsqu'il le Christ reviendra dans la gloire, nous serons avec le Seigneur toujours. Le livre de l'Apocalypse manifeste encore que dans cet état de paradis, nous allons y trouver notre identité véritable, notre identité accomplie. Je suis au deuxième chapitre de l'Apocalypse, au verset 17. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai aussi un caillou blanc, un caillou portant gravé un nom nouveau, que nul ne connaît, hormis celui qui le reçoit. Vous vous souvenez combien les noms sont importants dans l'Écriture? Il arrive régulièrement que un tel ou un tel, pensons à Abraham qui devient Abraham, pensons à Simon qui devient Simon-Pierre, un nom donné par Dieu en lien avec sa mission et qui vient expliciter, déployer justement ce qu'il est, sa mission, ce qui va être aussi son être profond et son action. On se demande parfois, hein, qu'est-ce que je fais sur cette terre, quel est l'objectif, ou est-ce que je suis sur la bonne route, on essaie de discerner cela. Et là, il y a un accomplissement. Tu reçois ce caillou blanc sur lequel est gravé un nom nouveau, que nul ne connaît, hormis celui qui le reçoit, et quelque chose d'extrêmement intime entre Dieu et moi. C'est celui, justement, qui me connaît intimement, et j'allais dire qu'il me donne aussi de me connaître, de prendre possession réellement de qui je suis, d'ouvrir, de posséder le secret de qui je suis. C'est extrêmement important, j'allais dire, posséder le secret de qui nous sommes, parce que c'est ce qui nous permet de nous donner ensuite. Si je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas trop ce que je donne, je ne sais pas trop ce qu'il y a à donner, je ne sais pas trop comment me donner. Par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ nous a ouvert le ciel. Voilà, la vie des bienheureux consiste dans cette possession en plénitude des fruits de la rédemption, le Christ qui nous associe à sa glorification. Et nous sommes incorporés en lui. L'Écriture va prendre un certain nombre d'images pour parler du ciel, pour parler du paradis. Je voudrais reprendre quelques-unes de ces images et de montrer aussi ce à quoi elles s'opposent, ce à quoi elles représentent, j'allais dire, un remède. L'Écriture nous va parler du paradis comme de la vie qui s'oppose à ces expériences que l'on peut avoir de mort ou de corruption. Le paradis, le ciel, va être aussi évoqué en termes de lumière, qui vont s'opposer du coup aux ténèbres, à l'aveuglement, à la confusion. Le paradis est évoqué comme paix, par opposition justement à ce qui est guerre, à ce qui est division, à ce qui est obstacle, à ce qui est entrave. Le paradis est présenté comme festin de noces. En festin de noces, une opposition à ce qui est séparation, ce qui est famine, ce qui est stérilité. Le festin de noces, il y a tout un jeu derrière ça, à la fois de réunion, de saveur, d'abondance. On va parler encore du paradis comme du vin du royaume, qui s'oppose à la soif, à l'amertume, à l'errance aussi. Le royaume, c'est « je suis arrivé, j'ai atteint le lieu ». On va parler du paradis comme la maison du Père, ce qui s'oppose au fait d'être orphelin, d'être étranger. On va parler du paradis comme de la Jérusalem céleste. Ça s'oppose au fait d'être sans histoire. Je n'ai pas d'histoire, je ne sais pas d'où je viens, je n'ai pas de lignée, je n'ai pas de patrimoine. La Jérusalem céleste, elle est pétrie d'une histoire, elle est pétrie d'une promesse. On va parler du paradis comme justement le paradis, ça évoque ce jardin, et ce jardin où les arbres donnent leurs fruits. Il n'y a pas besoin de labourer, ça s'oppose au labeur, à la résistance du monde, ça s'oppose aussi à l'insécurité. Et puis, autour de ce paradis, il y a également la notion de surprise et d'émerveillement. C'est saint Paul qui nous donne ceci dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 2, le verset 9. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. Et malheureusement, on se fait souvent des idées infernales du paradis. C'est-à-dire que ça a l'air tellement ennuyeux. Alors, on a l'impression qu'on est tous au garde-à-vous devant le trône de Dieu, à chanter pour la je ne sais quantième fois « Jérusalem, quitte ta robe de tendresse ou de tristesse » ou ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, voilà ce que Dieu a préparé. Et donc, ce n'est pas du tout le lieu où, ça y est, on a fait le tour et on est comme le poisson dans son bocal, à espérer justement qu'on n'ait qu'une mémoire de 2 secondes pour que, à force de faire les tours dans le même bocal, on ait oublié ce qu'on avait vu précédemment. Non, c'est tout le contraire. Il y a une surprise, il y a une évolution. Et comme nous sommes en relation aussi, il y a un partage, il y a une communication de ce qu'on voit, il y a un témoignage de ce que l'on voit. Et comment est-ce que c'est possible? Parce que Dieu nous ouvre lui-même son mystère. Vous voyez, mais comment est-ce qu'on peut voir l'essence divine? Parce que c'est l'action de l'Esprit Saint. C'est vraiment l'action de l'Esprit Saint. C'est à partir de là qu'on sait qu'il est personne divine, parce qu'il nous permet d'entrer en relation avec Dieu. Il nous permet de dire « Abba, Père ». Il nous met à la bonne hauteur pour dire à Dieu « Abba, Père » et que ce soit vrai. On sait par là, du coup, qu'il faut, puisqu'il nous donne d'être en relation personnelle avec Dieu, il faut que l'Esprit Saint soit personne divine. Et c'est lui qui nous permet d'entrer dans cette capacité. Dieu nous ouvre son mystère en faisant le don de Dieu, justement l'Esprit Saint, qui va nous donner cette capacité. Et dans le paradis, c'est une compagnie agréable. Je note ça parce que dans l'enfer, ce ne sera pas la même chose. C'est une compagnie agréable, la compagnie de Dieu et des saints, la compagnie des saints anges. Et c'est encore un lieu où, justement, on continue d'accomplir avec joie la volonté de Dieu. Quand le maître dit dans les paraboles de Jésus, entre dans la joie de ton Seigneur, aux intendants bons et fidèles, entre dans la joie de ton Seigneur, et l'intendant reçoit, garde, conserve ce que Dieu lui a confié. Le maître ne reprend pas et dit, maintenant tu n'as plus rien à faire. Non, il lui a confié, il veut le confier encore. Il y a une œuvre dans la vie divine qui n'est pas laborieuse, et au contraire qui est joie, joie du maître, joie de cette surabondance, joie de cette gratuité. Alors on se laisse prendre par le paradis, on parle beaucoup trop longtemps. Du coup, je vais essayer d'être plus bref sur l'enfer, parce qu'il me reste 5 minutes. Il en parlera pas mal. Alors, dans l'Écriture, comment est-ce qu'on parle de l'enfer? Il y a un terme qu'on va entendre régulièrement qui est le terme de Géhenne. Alors, la Géhenne, c'était d'abord, dans l'Ancien Testament, une vallée, la Gehinnom. C'est à partir d'un wadi, d'un petit ruisseau au sud-ouest de Jérusalem, où à l'époque du roi Akaz et du roi Manassé en particulier, eurent lieu des sacrifices humains au lieu précis du Tophet. Vous pouvez retrouver ça dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 28 et verset 3 pour Akaz, et au chapitre 33 verset 6 pour Manassé. Plus tard, on s'est servi de cette vallée pour brûler des immondices et aussi les cadavres des criminels. Donc c'est devenu, du coup, l'image utilisée pour parler, la Géhenne, du lieu où, entre guillemets, où vont ceux qui sont réprouvés par Dieu. Dans la prédication de Jésus, on va entendre régulièrement ce terme de Géhenne, de feu qui ne s'éteint pas. Pensons à saint Matthieu, moi je vous dis, quiconque se fâche contre son frère en répondra au tribunal, mais s'il dit à son frère crétin, il en répondra au Sanhédrin, s'il lui dit renégat, il en répondra dans la Géhenne de feu. Ou un peu plus loin, toujours en Matthieu 5, si ton œil droit est pour toi une occasion de péché, arrache-le, jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi que périsse un seul de tes membres, que tout ton corps ne soit jeté dans la géhenne. Ou quand on parle encore de la parabole du bon grain et de l'ivraie, à la fin, il y a ce tri fait par les anges, le Fils de l'homme enverra ses anges, qui ramasseront de son royaume tous les fauteurs d'iniquité et les jetteront dans la fournaise ardente, là seront les pleurs et les grincements de dents. Ou encore Matthieu 25, il dira à ceux de gauche, « Allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. » Dans le livre de l'Apocalypse, on entendra au chapitre 20, « Alors le diable, leur séducteur, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, y rejoignant la bête et le faux prophète, et leur supplice durera jour et nuit pour les siècles des siècles. » Alors la mort et l'Hadès furent jetés dans l'étang de feu, c'est la seconde mort, cet étang de feu. Les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impurs, les sorciers, les idolâtres, bref, tous les hommes de mensonge, leur lot se trouve dans l'étang brûlant de feu et de soufre, c'est la seconde mort. On voit à travers cela... Qui est-ce que cela va désigner? Ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie. Et pour ne pas être inscrit dans le livre de vie, il faut avoir refusé, du coup, l'œuvre de salut de Dieu. Et on a l'affirmation que Dieu offre son salut à tous et qu'il l'accomplit dans le Christ. Si on peut dire le salut nous précède, encore faut-il que nous le recevions. Et le refuser, c'est... soit justement dire « je ne veux pas aimer comme tu aimes, je ne veux pas donner ma vie par amour », ou bien parfois c'est, j'allais dire, s'en montrer indigne, dans le sens de « je sais, mais je ne fais pas ». Vous vous rappelez en Matthieu 7, les versets 21 et 23, Jésus dit « c'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ces jours-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait bien des miracles ? Alors je leur dirai en face « Jamais je ne vous ai connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Il ne suffit pas de savoir. Pour rester dans les temps, je voudrais évoquer ceci. À travers les évocations de l'enfer, il y a un double enjeu catéchétique. Comment cela ? C'est-à-dire que ce qui nous est donné, ce qui nous est présenté, est là pour nous avertir, afin de nous appeler premièrement à la responsabilité et deuxièmement à la conversion. Et c'est pas quelqu'un qui nous sauterait dessus en disant « Ah ben voilà, tu as perdu, mais personne ne m'a jamais expliqué les règles du jeu, personne ne m'a jamais dit comment fonctionnaient les règles de la vie. » Si le Christ le fait, et il nous donne à la fois, il nous parle à la fois du royaume, et nous dit aussi ce qui advient quand on refuse le royaume. Entrez par la porte étroite, car large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il en est beaucoup qui le prennent, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, il en est peu qui le trouvent. Je voudrais conclure en rappelant une chose, qu'aucun être humain n'est prédestiné à l'enfer. Dieu n'a prédestiné aucun être humain à aller en enfer. Souvenez-vous de Matthieu 25, au verset 34, et puis ensuite au verset 41. Vous voyez, le roi dit à ceux qui sont à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume » qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Voilà le projet de Dieu pour l'être humain. Alors, verset 41, il dira encore à ceux de gauche, Allez loin de moi, maudit, dans le feu éternel, qui a été préparé, non pas pour vous depuis la fondation du monde, mais qui a été préparé pour le diable et ses anges. Il y a une vraie responsabilité, parce que au cœur de notre vie, vous voyez, nous sommes appelés à participer à la vie divine, à la vie de Dieu, qui est une communion d'amour, et soit nous la vivons, et nous pouvons nous ouvrir à la grâce et à la miséricorde de Dieu, soit nous la refusons, et alors nous aurons ce que nous aurons voulu. Personne n'est prédestiné à l'enfer, l'appel au salut est donné à tous, mais il y a un vrai enjeu de notre vie. Le Christ est notre lumière, c'est vrai que si nous pensons y arriver tout seul, nous n'y arrivons pas, il le dit, hein, sans moi vous ne pouvez rien faire, mais justement la vie chrétienne c'est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Je cède la parole au Père de Mélo.
Alors, je voulais commencer précisément en citant le passage qu'exactement le Père Wurtz vient de citer de Matthieu 25. Et je trouve qu'il y a une petite chose intéressante, c'est qu'on nous dit que Dieu sépare les brebis des boucs. Et donc les brebis vont là où dans le lieu qui est préparé pour eux et pour les anges. D'accord ? Et en fait, les autres sont des boucs. C'est étonnant parce que normalement, on est tous pareils sur la ligne de départ. Mais on a l'impression qu'à sur la ligne d'arrivée, au terme de la vie, certains se sont transformés en boucs. Comme si il y avait dans le genre humain, en quelque sorte, une part du genre humain qui était dénaturée, qui avait quasiment changé d'espèce, quoi. Une sorte de déshumanisation qui fait que on devrait tous être des brebis rejoignant le lieu préparé pour nous, et qu'à la fin, il y en a qui sont devenus des boucs. C'est quand même... Jésus aurait pu dire un parabole, il sépare les brebis, puis il y a les bonnes et les mauvaises. Non, il sépare les brebis des boucs pour dire que... le péché est quelque chose qui nous dénature fondamentalement, que ça n'est pas ce qui est conforme à notre nature. Et pourquoi est-ce que je souligne cet aspect ? Parce qu'il me semble qu'une première chose, c'est que quand on parle du jugement, il faut, ce que je disais la semaine dernière, c'est être jugé, c'est déjà accepter d'être jugé par Dieu, ou refuser d'être jugé par Dieu. Et d'une certaine manière, l'homme se juge lui-même, il fait son propre jugement, il joue son sort éternel par lui-même. Ce n'est pas Dieu qui, de manière arbitraire, pourrait décider que certains sont prédestinés à l'enfer, d'autres à la vie, d'autres au paradis, ou qui, sans aucun critère qui soit déterminable, une sorte de loterie, de roulette russe qui fait que, voilà, la tartine tombe par terre en général du mauvais côté, quoi. Enfin, et puis pas de chance, quoi. Voyez. Dans l'islam, il y a vraiment ça. Il y a cette idée que, en fait, quel que soit ce que vous ayez vécu, même si vous avez vécu des cinq piliers de l'islam, Dieu peut très bien, de manière absolument arbitraire, décider de vous perdre. Et il y a vraiment cet arbitraire divin dans l'islam qui est impressionnant. Et dans lequel... parce que si, dans la pensée islamique, ce serait finalement demander à Dieu de rendre des comptes, en quelque sorte, si des critères du jugement étaient fixés. Et Jésus, lui, parle de ces critères du jugement dans les trois paraboles du jugement, des vierges sages, des vierges folles, des talents et du jugement des nations. Mais donc on n'est pas dans un arbitraire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que précisément, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'aucun d'entre eux ne se perde, dit saint Paul dans l'épître à Timothée. Et puis il y a ce lieu préparé pour nous, pour les hommes et pour les anges. tandis que l'autre lieu est préparé pour Satan et ses créatures. Voilà, là il y a les boucs, ça sent le bouc là-bas. Alors, je voudrais, partant de là, considérer que, essayer de comprendre, que nous faire comprendre que le jugement, qui n'est donc pas une sorte de loterie arbitraire, le jugement de Dieu, le fait qu'on aille au ciel, qu'on rentre dans la gloire de Dieu, ou que l'on soit damné, n'appartient pas à une loterie, ne veut pas dire, et le fait qu'il y ait des critères pour cela, ne veut pas dire que nous pouvons nous-mêmes dire, bah, un tel, c'est clair, là, quand même une forte chance qu'il aille en enfer, un tel, on ne peut pas, nous-mêmes nous faire juge de notre frère. Ce serait prendre la place de Dieu. Et vous avez remarqué une chose, l'Église canonise des saints, mais ne damnanise personne, ne proclame damné personne, vous voyez. Et il y a une sorte d'interdit et de voile qui masque à notre regard et à notre intelligence et à notre jugement, qui masque le jugement de Dieu. Nous ne pouvons pas dire, sauf pour les saints canonisés, dans lesquels nous savons qu'ils sont dans la gloire du Père, nous ne pouvons pas nous faire juge de nos frères. Et justement, entre les brebis et les boucs, qui sont chacun jugés sur un critère qui est défini, il y a tout un spectre de personnes dont on ne peut rien dire. Il y a toujours dans ces paraboles du jugement une part des personnes qui échappent aux critères qui sont dictés par le Christ dans ces paraboles. Il y a toujours une portion de l'humanité qui ne rentre pas dans chacune de ces cases du salut ou de la damnation, pour que nous ne puissions pas nous-mêmes nous dire que nous pouvons déterminer de manière ferme et absolue le sort de l'un ou de l'autre. Et donc, nous sommes, en fait, du coup, face à la responsabilité de notre vie, dans laquelle nous ne pouvons pas dire « Je sais que si je coche cette case, et cette case, et cette case, et cette case, eh bien, j'aboutis à cet endroit. » Voilà. Il suffit que j'ai coché les bons critères, et crac, j'ai pas de soucis. En fait, nous sommes placés face à une forme de gravité un peu pascalienne de notre existence. Nous ne sommes juges ni de nos frères ni de notre propre existence. Et l'hypothèse de l'enfer ne peut être envisagée que pour moi à la première personne du singulier, mais jamais pour mon frère. C'est ce que, dans les exercices de Saint Ignace, quand il fait considérer à l'homme sa déréliction, son péché, son insuffisance dramatique, il le met face à l'hypothèse de sa damnation. Et dès le lendemain, dans les exercices, le retraitant est mis face au Christ qui l'appelle à lui. Mais il lui fait toucher du doigt, en quelque sorte, la possibilité de sa perte. Et vous voyez, le « on ira tous au paradis », est une option qui n'est pas prévue, rendue, qui n'est pas plausible mais le on ira tous en enfer n'est pas rendu plausible, n'est pas et en fait la seule chose, le seul scénario plausible, c'est que je vais me trouver face au Seigneur et que je vais finalement accueillir ou non sa lumière. Alors comment ça se passe? C'est la lumière de Dieu, l'amour divin, le feu brûlant de son amour qui m'est donné dans cette rencontre. Et dans un cas, ce feu envahit mon cœur et me conduit à la joie. Et c'est ce même feu d'amour qui brûle celui et qui fait mal à celui qui le refuse. La question qui se pose, c'est est-ce que je consens à être face au Christ qui est la norme de ma vie en quelque sorte, le Fils de l'homme, l'agneau victorieux, le Seigneur, et je reçois cet amour et je l'accueille en moi, ou est-ce que le recevant je le laisse en dehors de moi et je le refuse? Et c'est le même feu qui réjouit le cœur des saints et qui amène le damné à se lamenter, qui fait souffrir le damné. Dieu n'a pas un comportement différent pour les uns ou pour les autres. Dieu aime d'un même amour chacun. Si l'amour de Dieu, à un seul instant, manquait à une créature, elle ne serait pas damnée, elle serait néantisée. Dieu nous maintient dans l'être par son amour. Et son amour miséricordieux nous est donné à tous. Et c'est l'amour miséricordieux qui réjouit le cœur des saints et qui fait souffrir le damné. C'est la même charité divine, le même rayonnement de cette charité divine qui se déverse sur tous et qui, par certains, peut être refusé. Par ceux qui, dans la damnation, ne veulent pas être aimés de Dieu, qui ne veulent pas que leur éternité dépende de cet amour éternel, qui ne veulent pas être dans ce lien de dépendance, qui veulent être dans une sorte de désaliénation totale, qui en quelque sorte ferait qu'ils seraient le propre support de leur vie, sans en quelque sorte subsister en Dieu et sur lui. Ceux qui veulent en quelque sorte exister à partir d'eux-mêmes sans exister à partir de Dieu. La damnation pour l'homme, c'est de refuser d'exister à partir de Dieu. Cela, ça me conduit à ma perte. C'est considérer que, mieux que l'arbre de vie qui me fait vivre, il y a cet arbre de la connaissance du bien et du mal, dont je suis juge, seul juge, et qui fait que, en le consommant, en quelque sorte, je perds la vie, je refuse cet arbre de vie qui est au milieu du jardin, dans le jardin d'Éden, et je choisis, en quelque sorte, de vivre à partir de moi, donc de mourir, plutôt que de vivre à partir de Dieu, donc de vivre. Et se pose la question, parce que du coup, de la question de l'éternité de la damnation ou du salut. En fait, c'est que lorsque Dieu aime, il ne se repent pas de ses dons. Dieu ne reprend pas ce don. Ah, je t'aime, mais alors, pour un temps donné. Ou je t'aime de manière, enfin, je t'aime sous condition. Est-ce que des parents aiment leurs enfants sous condition qu'ils amènent un 18 en maths? Non. Est-ce que les parents aiment leurs enfants pour un temps donné? Non, on les aime différemment. Cet amour mûrit, grandit, croit, parfois se purifie, etc., se décante. L'amour de Dieu est sans repentance. Dieu ne retire jamais son amour à aucune créature, je disais, sinon elle serait néantisée. Et l'amour de Dieu est éternel. C'est un amour éternel. Et accueillir l'amour éternel, c'est accueillir éternellement l'amour. Et refuser un amour éternel, c'est refuser éternellement l'amour. L'éternité de notre fin, qu'elle soit glorieuse ou qu'elle soit dans la damnation, tient à l'éternité de l'amour de Dieu. C'est parce que l'amour de Dieu est sans repentance qu'il est absolument éternel, que celui qui refuse l'amour éternel refuse éternellement l'amour. Enfin, il nous faut considérer que, mis face à notre propre existence devant le Seigneur, accueillant cette lumière éternelle du Seigneur sur notre vie, acceptant aussi que des ombres nous soient révélées sur notre vie et nous arriverons à notre mort avec plein de choses qui n'ont pas encore été complètement réglées, quoi. Qu'il y a encore des ombres au tableau, que tout n'est pas parfait, que nous portons encore quelque chose d'une complicité ou avec le mystère du mal d'une manière ou d'une autre. Il nous est donné néanmoins de consentir à cette lumière, de consentir à recevoir cette lumière qui va révéler nos ombres. Ainsi, ce qui nous donne, ce n'est pas de porter des ombres, d'être imparfait. La sainteté, ce n'est pas la perfection morale. Ce qui nous donne, ce n'est pas d'être des gens bien, de ne pas être des gens bien, et ce qui nous sauverait, ce serait d'être des gens bien. Non, ce qui nous sauve ou ce qui nous donne, c'est de consentir ou de ne pas consentir à recevoir cette lumière et cet amour éternel. Car lorsque Dieu fait apparaître sa lumière sur nos vies et en démasque les ombres, lorsqu'il démasque nos blessures, lorsqu'il démasque notre péché, lorsqu'il démasque le mal, lorsque sa lumière fait apparaître les ombres, ce n'est pas pour appuyer dessus afin que nous souffrions plus, c'est pour nous en délivrer. Il veut nous délivrer du mal. Délivre-nous du mal. Les enfants cruels sont capables, quand ils harcèlent un autre, d'appuyer là où ça fait mal, voyez. Et d'enfoncer dans son mal la personne. Et en quelque sorte pour l'identifier à son mal, dire tu es ce mal, ce mal c'est toi. Cette qualification, tu es trop ceci ou pas assez cela, ça te définit et je t'enferme dans ton mal. Et finalement, le Seigneur, lui, nous arrache au mal en nous faisant voir que nous ne sommes pas identiques à ce mal. Que la vérité de notre être, ça n'est pas cela. Et s'il dénonce notre péché à l'heure du jugement, c'est pour nous rendre à la vérité de nous-mêmes. C'est pour nous restaurer dans la vérité de ce que nous sommes. C'est pour dire, je t'aime, mais ça n'est pas la créature filiale, ça n'est pas filial en toi. Ça n'est pas l'amour que j'ai répandu en toi par le don de l'Esprit Saint. Ça ne vient pas de moi. Ça vient, c'est une sorte de pourriture de quelque chose d'un refus d'amour que tu as laissé prospérer en toi. Et donc, je veux te guérir de ça. Je veux te délivrer de ce mal. Et lorsque nous prions le Notre Père pour demander à être délivré du mal, et lorsque nous nous confessons, et lorsque nous faisons l'acte pénitentiel au début de la messe, lorsque nous vivons des temps de pénitence comme le carême, en fait, nous demandons à Dieu d'être restauré dans la vérité de notre être. Et à pouvoir, du coup, à ce que l'amour divin puisse rayonner, régner en nous dans cette maison, que le « que ton règne vienne » advienne déjà en nous, à la première personne du singulier, puis aussi après dans nos communautés, dans les corps sociaux, ecclésiaux, familiaux, quels qu'ils soient, dans lesquels nous sommes insérés. Mais chaque fois que le Seigneur nous montre le mal, c'est pour nous en délivrer. Et cela veut dire que Dieu veut commencer dans l'œuvre du salut et de sa miséricorde, cette œuvre éternelle, c'est qu'il n'attend pas que nous arrivions tout dégueulasses et crottés devant lui pour dire « bon, écoute, maintenant on va te passer au karcher. Et puis, bon, bah tant pis, il y en a, ils ont accumulé plus de gadou que d'autres. » Non, en fait, cette œuvre de purification et de délivrance du mal commence pour nous aujourd'hui. Et nous en faisons déjà l'expérience. Lorsque quelqu'un reçoit une prière de délivrance, par exemple, ça peut aller jusqu'à l'exorcisme, eh bien c'est précisément cette victoire du Christ sur le mal qui déjà lui est donnée d'expérimenter une liberté nouvelle, retrouvée, qui lui est offerte. Et dans le combat spirituel, c'est précisément ce que nous commençons à expérimenter. Ainsi, il y a une sorte d'habitus à muscler chez nous. Et cet habitus, c'est celui qui consiste à consentir à ce que la lumière de Dieu vienne sur moi. Consentir à ce que le Seigneur me révèle à moi-même dans la vérité de ce que je suis. Ainsi, la damnation ou le salut ne nous surprendront pas comme des voleurs. Or, vous avez remarqué dans cette parabole du jugement des nations, il y a un truc étonnant quand même. Les brebis et les boucs, eh bien, ils sont tous étonnés. Ils disent « Ah bon ? Non mais de quoi tu nous parles, là, Seigneur ? Quand est-ce que nous t'avons visité en prison ? D'accord ? Et puis les autres, quand est-ce que nous ne l'avons pas fait ? En fait, il y a une sorte de sentence qui tombe, comme une sorte de couperet, et qui leur paraît complètement aberrante, et qu'ils ne connectent pas cette sentence avec ce qu'ils ont vécu. Vous voyez ? Donc ils sont tous en mode, mais de quoi ils nous parlent là, le Seigneur ? C'est qu'on est sur le jugement des nations, précisément le jugement des hommes et des femmes qui sont dans la gentilité, c'est-à-dire qui sont dans le monde incroyant, qui sont dans les nations païennes, qui donc n'ont pas connu le Christ. Et donc, n'ayant pas connu le Christ, ils n'ont pas conscience de l'avoir visité en prison, habillé, nourri, etc. Et n'ont pas conscience non plus de n'avoir pas fait ce qu'il fallait envers les plus petits. Mais ceux qui savent le don qu'ils ont reçu, qui est un don vivant en eux, c'est ceux qui ont reçu le talent vivant, qui n'est fait que pour être en dilatation, un talent qui n'est fait que pour fructifier. Et l'on voit dans cette parabole que ceux qui ont, en quelque sorte, honoré ce talent et qui l'ont permis de se déployer, à l'inverse de ceux qui l'ont asphyxié, atrophié, étouffé, enterré, ceux-là sont jugés sur le critère qu'ils connaissaient de ce talent qui leur était donné, de la vie qui leur était donnée, la vie qui était censée croître, se répandre, se déployer en eux, et que certains, dans le cas de la damnation, ont en fait atrophié et asphyxié. Tout ça pour dire que la question de l'éternité du jugement et de notre sort éternel, loin d'être un arbitraire qui nous frapperait à l'aveugle, est en fait quelque chose que Dieu nous donne. Il nous remet entre les mains la possibilité d'accueillir son amour, d'accueillir cette lumière sur nous, la vérité de notre être, et d'accueillir, en plus de cette vérité de notre être, il nous donne des talents qui sont appelés à fructifier, une vie qui est appelée à se dilater. Il y avait cet adage au Moyen-Âge très beau, on disait « bonum diffusivum sui », le bien est diffusif de lui-même, comme l'univers en expansion. Eh bien, ce don de la vie de Dieu qui nous est donné que pour vivre et pour que nous vivions plus pleinement, que nous ne soyons pas des survivants ou des sous-vivants, mais que nous soyons des super-vivants et que nous vivions plus intensément encore notre vie. Et nous faisons l'expérience que lorsque la perte d'intensité de notre existence, c'est précisément dans le mal que nous l'expérimentons. Et lorsque nous sommes rendus à nous-mêmes dans le plein usage de notre liberté d'enfant de Dieu, nous vivons plus intensément, plus librement, nous nous élançons dans la vie, nous prenons des décisions libres et joyeuses, et nous sommes déjà portés par la grâce et par la louange et par les anges. Voilà, en fait, vous voyez, il me paraît important souvent de ne pas réduire la question des fins dernières et de l'éternité et de la vie éternelle à quelque chose qui est de l'ordre de l'après, du plus tard et de l'après la mort. D'avoir conscience qu'il s'agit, en fait, aujourd'hui d'accueillir ce don. Et qu'il s'agit de fins qui sont pas si dernière que ça, et dont nous avons déjà reçu, pour ce qui est de la vie éternelle, les prémices. Saint Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens, nous avons reçu une avance sur héritage. Nous voilà riches. Nous avons une avance sur héritage de la vie éternelle, du ciel donc, et plutôt ciel que nous nous accrochions à cette avance, à cet acompte qui nous a été versé, de cet héritage. Et ainsi, si nous considérons que, certes, la question de la damnation ne peut s'envisager qu'à la première personne du singulier, nous n'aurons rien à craindre vivant de ces talents qui sont des talents eux-mêmes vivants, c'est-à-dire vivants du Christ vivant, du Christ ressuscité, cet amour vivant en nous, répandu en nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, entendions-nous dimanche. Et ainsi, cette éternité, nous en sommes les artisans dès aujourd'hui. Voilà, la semaine prochaine, nous parlerons plus de la question de la fin des temps, de la parousie, du retour du Christ en gloire. Donc ce sera la saison 3 de la série.